Donc merci aussi à vous de m'accueillir. Je vais commencer parce que hier, effectivement, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit « C'est pas contre vous, madame, c'est à cause de la matière ». Et ça m'a effectivement... En fait, ça pourrait être le titre de cette intervention. Parce que c'est vrai que l'objectif ici, c'est de présenter des concepts qu'on a élaborés d'un point de vue plutôt didactique, en partant de remarques comme celle-ci. C'est-à-dire que nous n'allons peut-être pas parler tout à fait de décrochage scolaire, mais peut-être un peu de décrochage disciplinaire. Avec discipline, hein, au sens des disciplines scolaires, l'histoire géo, les mathématiques, la SVT ou les sciences, selon qu'on est en primaire, selon que l'on est au lycée. Et l'idée, c'est effectivement de montrer, d'essayer de dérouler au cours de cette intervention, comment nous sommes partis de l'observation de certains dysfonctionnements, de certaines attitudes d'élèves, de certains discours, pour effectivement élaborer ce concept. En fait, pour l'instant, c'est la conscience disciplinaire. J'évoquerai le vécu disciplinaire qui est en cours un tout petit peu vers la fin. Mais d'abord, conscience disciplinaire. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'apporter un autre regard que celui que nous avons eu hier, un regard sociologique, un regard historique. Bon, je vais essayer de construire un regard un peu didactique, en se disant, de toute façon, dès qu'on est un peu dans de la construction d'un regard scientifique, il est impossible, selon moi, d'englober un phénomène dans toute sa globalité, dans toute sa complexité. C'est donc une entrée par un point de vue que je vous propose, sans pour autant nier l'intérêt des autres points de vue. C'est pas du tout cela. Donc je vais essayer d'adopter un point de vue un peu chronologique pour expliquer comment nous avons petit à petit construit ce concept. Puis une chose que je voulais dire également, c'est que merci de m'avoir invité, mais c'est parce que moi je peux venir, sinon je parle au nom de mes collègues. Nous formons une équipe, c'est un collectif qui a travaillé dans cette recherche. Si je dis comme on dit dans les romans policiers, c'est parce que dans ce cas-là, ce sont les erreurs qui me sont imputables, sinon tout le reste, c'est vraiment une équipe très soudée. Donc, je vais commencer effectivement. Donc, comme on est passé d'observations très empiriques à l'élaboration des deux concepts de conscience disciplinaire et de vécu disciplinaire. Donc, un mot simplement pour cadrer un petit peu notre travail. En tant qu'équipe, donc nous menons depuis 20-25 ans maintenant, des recherches en didactique des disciplines au sein de l'équipe Théodile Cirel maintenant de l'UL3. Et nous avions la particularité, je parle au passé parce que je parle au passé, nous avions la particularité d'être une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire composée de chercheurs en didactique du français, en didactique de l'oral, en didactique des mathématiques, des sciences, de l'histoire géo, de l'EPS, mais aussi des chercheurs en psychologie de l'éducation, en histoire de l'éducation, etc. Et les recherches que nous avons menées étaient fondées en grande partie sur la comparaison de ce qui se passait dans les différentes disciplines scolaires, au primaire, au collège et au lycée. L'université est venue après. Donc pour mémoire, pour mieux faire comprendre ce qui m'apparaît maintenant comme un point de départ de notre travail actuel, nous avons étudié d'abord les façons dont les élèves écrivent dans les différentes disciplines scolaires, les façons dont ils mènent des descriptions dans les différentes disciplines, les façons dont les récits surgissent, sont utilisés, sont lus en mathématiques, en sciences, en histoire géo, etc. Donc nous avions acquis quand même une certaine, je dirais, expérience sur les difficultés à passer d'une discipline à l'autre, à comprendre quelles étaient les contraintes d'une discipline à l'autre. Puis pendant tout un temps, nous nous sommes centrés vraiment sur l'étude de ce que nous avons appelé les pédagogies alternatives. Et en particulier, c'est vraiment la recherche qui nous a fait bouger complètement, c'est celle que nous avons menée sur les fonctionnements d'une école qui s'inscrivait dans une pédagogie Freinet en milieu populaire à Mont-Saint-Barœul, Mont-Saint-Barœul étant une banlieue de Lille. J'en dis un mot parce que nous avions commencé cette recherche en 2001, nous avons fait un rapport, ça vous évoquera quelque chose peut-être d'hier, qui a été enterré immédiatement dans les bureaux du ministre, ça, pas de problème. Et puis, curieusement, Le 30 janvier, Libération a fait sa page 2 sur cette école. Et j'ai lu le point de cette semaine où nous apprenons que l'école de Mont-Saint-Barœul est une école que le monde entier nous envie. Alors là, on n'en revient pas. C'est magique. C'est magique. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que, puisque la presse s'en est emparée, ils n'ont pas tout compris, je suis désolée, j'espère, enfin, ils simplifient un petit peu. Et donc, c'est maintenant inscrit dans un discours de bonne pratique. Ce que nous, justement, nous ne voulions pas. Bon, mais on n'est pas maître de la diffusion. Voilà, mais je vous incite à aller regarder effectivement ces articles. Et je signale aussi que le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, s'est aussi saisi justement de cette problématique des bonnes pratiques, entre guillemets. Et nous avons été auditionnés. Vous pouvez voir sur le net nos auditions, les auditions des enseignants. Et puis c'est moi qui ai été auditionnée pour entendre parler un petit peu de cette mise en œuvre d'une pédagogie alternative en milieu scolaire. Voilà, je termine le truc. Donc pour dire qu'on s'est intéressé vraiment à cela, à d'autres modes d'enseignement. Et puis je terminerai donc cette description des recherches. À la demande du HCE, nous avions aussi mené une recherche sur les interprétations et les mises en œuvre de l'article 34 de la loi d'orientation qui concerne les pratiques innovantes. Là encore, nous avions donné un épais rapport qui lui aussi a été enterré. Et c'est dommage parce qu'effectivement, il y avait plein de choses à souligner. Bref. Au cours de ces différentes recherches, nous avons effectivement pu mener des observations empiriques. Et nous avons travaillé par observation, c'est-à-dire j'ai passé des heures et des heures dans des fonds de classe très différentes. Nous avons mené des entretiens auprès d'élèves de la maternelle au lycée, en passant par la SECPA, en passant par les lycées professionnels, les sections décrocheurs, etc. C'est-à-dire, on a mené des entretiens très nombreux, des questionnaires. Et nous avons pu faire des observations pendant lesquelles je trouvais, je vais vous le dire comme ça très crûment, des élèves, pas tous surtout, mais semblaient un peu perdus, un peu plus ou moins déboussolés, incertains. On a pu aussi recueillir des fragments de discours que je vais vous citer qui, au fond, peuvent sembler des freins possibles à des apprentissages ou en tout cas ne pas les favoriser. Bon, j'en cite quelques-uns. Ça va vous évoquer, je pense, des choses. Par exemple, des élèves qui ne rangent pas leur production au bon endroit dans les classeurs, qui mélangent allègrement ce qui relève de l'histoire, ce qui relève de la géographie, ce qui relève des sciences dans un joyeux fourre-tout. Des ambiguïtés que des enseignants repèrent, par exemple, géométrie et géographie. Ah oui, ils confondent toujours ça. Je parle surtout aux primaires. Géométrie, géographie, ah oui, oui. Mais il y a beaucoup d'élèves qui confondent les deux. Beaucoup d'élèves qui ne distinguent pas de critères disciplinaires. Par exemple, sur les descriptions. Les descriptions, c'est toujours des descriptions, c'est du français. D'ailleurs, on ne décrit pas dans les autres disciplines. En maths particulièrement, il n'y a pas de description en maths. Ou alors, des discours qui semblent peu aidants. En français, les descriptions, il faut les sauter dans les bouquins parce que c'est absolument inutile. Moi, je ne lis jamais les descriptions dans les romans. Ou encore, écrire en français, c'est délayer, c'est faire du blabla, enfin, vous savez bien. Ou alors encore, en histoire, qu'est-ce que vous faites? En histoire, on gratte, c'est tout. J'ai horreur de l'histoire, je m'ennuie. Attention, là je cite des discours négatifs, il y a évidemment des discours très positifs. Ou d'autres enfin qui interrogent, par exemple en terminale S. Oui, on fait bien de l'algèbre, on fait bien des statistiques, on fait bien des probas. L'analyse, ah non, j'en fais jamais, non, non. L'analyse est en philo. Dit un élève de terminale S qui a sur son bureau l'énorme bouquin où c'est marqué « analyse » en énorme. Donc il n'en fait jamais. Mais aussi des moments d'observation, ça c'est des interrogations sur les élèves ou les enseignants parfois qui nous disent des choses, mais aussi des moments d'observation entre chercheurs. On est une équipe pluridisciplinaire, donc ça nous est arrivé, en particulier à l'école primaire, d'être assis au fond de la classe et puis qu'un de mes collègues me pousse du coude en disant « Mais il est en train de faire quoi là? On est où? On est en maths? On est en français? Je comprends pas bien. Je sais pas très bien dans quelle discipline on se place. » Il y a aussi des moments, et j'en aurais terminé un petit peu avec les observations empiriques, où nous avons interrogé les parents. Les parents, pour voir les entretiens, les réactions des parents ou les accueils qui sont prévus pour les parents. Et des ambiguïtés aussi qui sont perçues, voire même des contradictions. Par exemple, des parents tout à fait volontaires qui sont parents d'élèves en maternelle petite section. Dans leur très grande majorité, ce sont des quartiers très très populaires où nous avons été, qui disent oh « ben, moi j'apprends à mon enfant à compter, mais jusqu'à 100 ». Et je ne comprends pas pourquoi les enseignants ils s'arrêtent. Alors que moi j'y arrive, je lui fais réciter et ça marche bien. Donc je ne comprends pas pourquoi la maîtresse, elle dit cette année, « Oh non, je vais peut-être viser jusqu'à 15. » Alors que moi, je lui apprends à compter jusqu'à 100. Ou bien des parents et des enseignants aussi qui disent, bah, « Il faut commencer par accueillir les enfants. » Je souligne le mot « enfant ». Il faut d'abord qu'ils se sentent bien. Il faut d'abord qu'il y ait un espace de bien-être avant qu'on puisse commencer à travailler. Et là, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, parce que nous avons justement une collègue dans l'équipe qui dit « Mais non, dans les écoles où on commence à travailler, tout de suite la souffrance de l'enfant est allégée. » D'accord ? Si on en fait d'abord des élèves, la souffrance de l'enfant s'allège. Donc c'est vraiment des contradictions parfois qui sont intéressantes à penser. Bref, je m'arrête là. Voici les observations empiriques et puis nous sommes dit bah, il nous semble que les différentes disciplines scolaires, en tout cas, étaient très diversement identifiées. Au sens presque immédiat de la présence. L'éducation à la citoyenneté, c'est quoi ça? Je ne connais pas. L'oral, oh ben non, je ne l'enseigne pas vraiment cette année. Au sens tout bête de la désignation. Il y a dans des classes qui me disent, ah ben cette année on fait études du milieu. L'année dernière on faisait sciences. L'année prochaine, je vais faire de la techno. D'accord ? Parce que les profs désignent de façon différente le champ disciplinaire dans lequel ils s'inscrivent. Mon prof, c'est un prof d'histoire géo, mais il fait aussi éducation civique. Cette année, c'est art plastique. Ah, mais quelqu'un dit dessin. Ou quelqu'un dit art visuel. Au sens celui de la structuration, je reviens également sur géométrie et mathématiques. Je suis didacticienne des maths, c'est pour ça que mes exemples sont souvent mathématiques, je suis désolée. Mathématiques et géométrie, mais c'est pas du tout la même chose. Donc ça empêche de construire des liens entre ce qu'on fait en maths et ce qu'on fait en géométrie. X carré, bah carré, c'est parce que c'est un carré, mais j'ai jamais vu la relation entre algèbre et géométrie, non, il n'y en a pas, pourquoi ? Poésie, orthographe, n'en parlons pas. Bref, voilà, non, excusez-moi, je continue. Ce qui nous a semblé aussi, c'est que les contenus spécifiques dont l'enseignement est dévolu à ces disciplines scolaires sont parfois très catégorisés et parfois extrêmement flous. Je cite encore, l'histoire, c'est tout ce qui s'est passé avant, ou bien en sport, ben, y a rien à apprendre en sport, on n'apprend rien. Et ça, c'est un discours très, très, très commun. Qui interroge quand même. La visée des enseignements des différentes disciplines scolaires le sont également. Pourquoi est-ce qu'on fait de la géographie? J'en sais rien. De la philo. Pourquoi est-ce qu'on fait de la philo? J'en sais rien non plus. Les visées, les modes d'évaluation. En maths, oh ben, il s'agit de produire la bonne réponse. En français, oh ben, il faut écrire sans faute et puis il faut délayer. Les modes de motivation, en esthétique, oh, c'est ma passion, je suis motivée cette année. En LP restauration, ah, c'est vraiment gratifiant de faire à manger aux enfants de la cantine. Là, cette année, je m'éclate. Et au contraire, en gestion, oh, je m'ennuie. Donc, les visées, les contenus spécifiques, les modes d'évaluation, les modes de motivation, les modes de lecture et d'écriture. On n'écrit pas en maths comme on écrit en sciences. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont montré. Des modes de réussite. On a plein de doctorants en ce moment qui sont là-dessus. En maths, ben, il suffit de comprendre et c'est bon, vous réussissez. En histoire, oh, il faut apprendre par cœur et ça suffit, vous réussissez. Les modes particuliers d'enseignement ou bien vraiment les moments exceptionnels. Ben, y a les dictées, les exercices, et puis il y a un écrivain est venu, on a pu l'interroger toute l'année, on a fait une petite voiture pour le concours, pour les élèves décrocheurs, des choses comme ça. Bref, tous ces points d'entrée nous ont montré d'abord qu'ils révélaient des désarrois bien plus profonds que nous ne les avions imaginés, mais aussi des rationalisations ou des regards plus fermes aussi. Ça nous a permis aussi de sortir un peu des discours ambiants. C'est pour ça que j'ai cité d'abord ce qu'on avait dit hier sur « c'est pas vous madame, mais c'est la matière ». C'est-à-dire qu'il y a dans les représentations sociales, hein, au sens vraiment commun du terme, l'idée que ce serait d'abord le rapport au prof. On a un bon prof, donc on adore la matière. On a un mauvais prof, donc on déteste la matière. Et ça nous a vraiment... C'est quelque chose que l'on entend. Je crois qu'il faut l'interroger. Il y a quelque chose peut-être dessous, à creuser un petit peu, que ce rapport à un individu. Il y a peut-être un rapport à une matière ou à une discipline scolaire qui peut être à interroger. Bref, tout ceci nous a fait construire, émerger, penser davantage ce qu'est une discipline scolaire. Nous nous sommes engagés dans cette réflexion, voilà, qui a nécessité une réflexion donc sur les disciplines scolaires à la suite des travaux en particulier d'André Chervel, qui est un historien de l'éducation, j'aurais dû le noter, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui a commis vraiment un article absolument fondateur dans l'histoire de l'éducation, l'histoire des disciplines. À la suite de Jean-Louis Martinan et Joël Lobaum, nous avons proposé ça comme définition d'une discipline scolaire à différencier d'une discipline universitaire, ça j'insiste beaucoup, et d'une discipline scientifique. Les maths à l'école, c'est pas les maths à la fac, c'est pas les maths en tant que domaine de recherche. Le français à l'école, ça n'existe qu'à l'école. À l'université, on enseigne la linguistique, on enseigne la littérature. Et le domaine de recherche, ça peut être l'étude critique et des choses comme ça. Donc on propose, hein, c'est Yves Reuter. Yves Reuter, c'est mon mari, comme ça sera plus simple. Une discipline scolaire est une construction sociale organisant un ensemble de contenus, de dispositifs, de pratiques d'outils, articulés à des finalités éducatives en vue de leur enseignement et de leur apprentissage à l'école. Donc ça, vous retrouverez ceci dans le dictionnaire des concepts didactiques, donc qui est paru chez Debouc. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire, enfin c'est ce que nous avons proposé là tous les deux, c'est de dire qu'en fait, ce qui est plus intéressant encore, c'est de penser le concept de configuration disciplinaire. C'est-à-dire de se dire, les disciplines scolaires, elles ne vivent que par leur actualisation. Et on appelle ça une configuration parce qu'on est forcé d'avoir des mots savants pour se parler entre nous. Une configuration scolaire, ça signale simplement, on en a besoin pour penser que les maths en maternelle ou les maths à l'école primaire à l'heure actuelle en France, c'est pas la même chose que les maths en LP en Allemagne. Que l'histoire-géographie en France, c'est pas la même chose que les educational studies dans les pays anglophones. Je prononce très mal, mais c'est pour montrer qu'il y a des actualisations très différentes selon la géographie et bien sûr selon le temps. Voilà. Et donc, on s'est posé là-dessus. Ça, c'est un concept un peu ancien que nous avons repris parce qu'on s'est dit qu'au fond, ça nous aidait à penser la façon dont les élèves et les enseignants vivaient et reconstruisait, identifiait ces disciplines scolaires. Donc, tout simplement, mais ça nous a demandé quand même pas mal de temps, hein, on est lent, c'est de se dire que le concept de conscience disciplinaire, c'est la manière dont les sujets didactiques, les élèves, mais aussi les enseignants, reconstruisent telle ou telle discipline scolaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas donnée d'emblée naturellement, les élèves, les enseignants reconstruisent la façon dont les mathématiques existent à l'école, la façon dont elles sont différentes de la physique-chimie, la façon dont elles sont différentes du français, etc., etc., etc. Ce sont donc, c'est un intérêt qui nous semble, c'est un concept hein, qui nous a semblé vraiment intéressant parce qu'il nous a permis ensuite de penser, d'aborder le vécu disciplinaire, c'est-à-dire la façon dont les élèves et les enseignants vivent ces différentes disciplines, et l'intérêt qu'ils présentent aussi pour expliquer des décrochages disciplinaires, et non pas des décrochages scolaires. C'est-à-dire qu'il y a des manières de reconstruire telle ou telle discipline, je vais vous en montrer, qui sont peut-être pas tellement adéquates pour des apprentissages réussis. Et il y a au contraire des façons de reconstruire telle ou telle discipline qui sont peut-être facilitantes pour rentrer dans les enseignements et les apprentissages. Voilà. Deux intérêts simplement à ce concept. C'est un intérêt théorique. Bon, je le signale simplement puisque si c'est un concept didactique, il est à inclure dans le système des concepts didactiques. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec tout cela, ça veut dire qu'on peut se poser la question du rapport à l'erreur et au dysfonctionnement, d'accord, mais aussi à celui de pratique langagière, etc. C'est-à-dire un concept, c'est jamais isolé, ça fonctionne en réseau. Ça permet également, je m'arrête après, mais si ça vous intéresse, je peux revenir dessus, à différencier ce concept d'autres concepts qui ont été élaborés dans des champs qui ne sont pas celui de la didactique. Je pense en particulier à des concepts tels que celui de clarté cognitive, qui est un concept extrêmement fort, mais qui est élaboré par des psychologues de l'éducation, en particulier Michel Brossard, qui est un concept très intéressant, mais qui n'est pas en réseau tout à fait avec le mien, avec le nôtre. On est, d'accord, on a des éclairages différents. Ce qu'on éclaire, ce n'est pas la même chose. Ou le concept de représentation sociale, qui est un concept fondamental, extrêmement intéressant, mais qui n'est pas le même que le nôtre. D'accord ? Il y a un intérêt théorique à penser que nous, on est dans un champ et qu'on n'est pas dans un autre. Bon, il y a un intérêt pragmatique, effectivement, parce qu'au fond, tout ça, ça intéresse la relation entre les performances disciplinaires des élèves et la manière dont ils y vivent et dont ils les perçoivent, les reconstruisent. Donc cette recherche que nous avons entreprise, qui est dirigée par Cora Cohen-Azria, qui s'est intitulée « La conscience disciplinaire » qui a donné lieu à des publications aux presses universitaires de Reims, puis qui est maintenant, de Rennes, pardon, et qui est maintenant suivie à l'heure actuelle par une recherche sur le vécu disciplinaire, mais qui est encore en cours, d'accord, qui est très large. Et c'est vrai qu'elle a pour objectif, celle-là, elle avait pour objectif de reconstruire au travers de discours sollicités, bon, des formes de conscience disciplinaire d'élèves de CM1, CM2. On s'est d'abord centré sur le primaire et maintenant on est en train d'élargir du CM1, CM2 à la fin du lycée, en passant par toutes les filières. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi des classes et au départ, quand même, ben, pour pas que ce soit trop éclaté, on a pris des caractéristiques communes, c'est-à-dire on a interviewé par des questionnaires des classes entières, c'est-à-dire que tous les élèves sont dans des classes parce que il y a au fond une hypothèse centrale à la didactique, au didactique, c'est que nous considérons des élèves en tant qu'ils sont sujets didactiques, en tant qu'ils sont dans une classe. Nous pensons que les modes d'enseignement, les modes d'apprentissage sont différenciés selon les classes. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on ne les considère pas comme sujets psychologiques ni comme sujets sociologiques. Nous, on les considère comme dans une classe. Donc, on va regarder si le fait d'appartenir à une même classe a une influence sur la façon dont ils se représentent les disciplines scolaires. Donc, on prend des classes entières et on prend les enseignants aussi de ces classes entières. En CM1, CM2, voilà. Et on a fixé CM1, CM2. Par contre, on a fait des variations, c'est-à-dire qu'on avait des hypothèses sur les facteurs, effectivement, qui pesaient sur les consciences disciplinaires. Comme je vous l'ai dit, puisque nous travaillons beaucoup sur les pédagogies alternatives, nous avions l'hypothèse que le mode de fonctionnement pédagogique dont se réclament les enseignants d'un établissement ou d'une classe avait peut-être des effets sur les façons dont les enseignants et les élèves se reconstruisaient ou souhaitaient reconstruire les disciplines scolaires. Pour le dire très vite, ça a été moins fort comme effet que ce que nous avions cru au départ, il apparaît quand même, c'est-à-dire que par exemple, en pédagogie, se réclamant du mouvement Freinet, c'est vrai que les élèves rentrent plus par les activités que par les contenus, que par les exercices emblématiques, mais c'est vrai aussi que c'est beaucoup moins fort que ce qu'on avait cru initialement. L'effet de la classe, de l'enseignant, est beaucoup plus fort. C'est très curieux. Ou alors l'effet du groupe de pairs, hein. C'est-à-dire d'avoir une même scolarité, d'avoir vécu à peu près les mêmes expériences, explique peut-être davantage la formation de cette conscience disciplinaire. Un autre critère, bon, qui est absolument incontournable, c'est celui de l'inscription dans des zones. Alors j'ai mis REP, mais c'est rare, c'est éclair, c'est tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, au fond, ce sont les milieux sociaux dans lesquels s'inscrit l'établissement. Voilà. Nous avons pu travailler, je vais vous montrer simplement le tableau, avec ce que j'appellerais très grossièrement des CSP++++, et puis des CSP……, et puis des mixtes. D'accord, en ayant quand même l'hypothèse qu'il y avait une influence donc de l'inscription dans un milieu particulier, même si c'est très compliqué à reconstruire, hein, le milieu dans lequel on est. Il y a des élèves, par exemple, il y a des écoles Freinet dans la banlieue de Lille qui disent fonctionner en pédagogie Freinet, qui sont inscrites dans un milieu très populaire, pas celle de Mont-Saint-Barreul, hein, mais d'autres, mais qui ont une ouverture à des parents qui sont absolument pas du quartier. Et donc, ils travaillent avec des élèves qui sont de milieu CSP+, on va dire, alors qu'ils sont dans une zone REP. D'accord, il y a des choses, il y a des ambiguïtés là-dedans qui sont très, très compliquées à étudier. Bref, et nous voulions évidemment faire varier les filières, ce qui n'a aucun sens en CM1, CM2. Mais je le dis pour mémoire, puisqu'on va le faire varier dans le vécu disciplinaire. Au total, on a 13 classes, soit 303 élèves. Donc ça fait quand même 300 questionnaires. Je vais vous décrire un tout petit peu pour vous donner des aperçus de la façon dont on a travaillé. On a 13 classes et donc nous avons 12 entretiens avec les enseignants, parce que c'est vrai qu'une des enseignantes n'a pas souhaité répondre à un entretien. Voilà, donc je dis tout. Donc vous avez, voilà, le tableau, c'est simplement pour voir un petit peu, j'ai mis favorisés, défavorisés, ce sont des classifications qui feraient hurler les sociologues, mais c'est simplement parce qu'on est entre nous, d'accord, et l'inscription est vraiment celle que nous avons pu reconstruire avec, bon, le nombre d'élèves. Quand j'ai mis favorisés, c'est vraiment très, très favorisé, d'accord, c'est vraiment des écoles CSP++. Voilà, donc à peu près le truc. Il y en a une donc de la région parisienne, c'est Courbevoie. Sinon, Losse-les-Lille, c'est une banlieue très populaire de Lille. Mont-Saint-Barreul, c'est l'école Freinet. Montigny-en-Goële, je sais que ça ne vous parle pas tellement, mais c'est le Pas-de-Calais, ce sont les mines. D'accord, c'est plus au là parce que les mines ont fermé, mais c'est triste. Et Villeneuve-d'Ascq, c'est là où est la fac et c'est très très divers. Comme banlieue. Voilà. Et je vous ai mis la façon dont on a travaillé. Nous avons travaillé avec des questionnaires en CM1, CM2, qui sont des questions ouvertes. On est un petit peu fou, hein, là-dessus. C'est-à-dire que on travaille beaucoup avec des questions ouvertes. En CM1, CM2, ce n'est pas la dictée à l'adulte. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux élèves pour écrire. Mais on sait très bien que certains d'entre eux, je vais vous en montrer, sont contraints par le temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps d'écrire aussi longuement que d'autres, tout simplement parce que vous imaginez, je ne sais plus si vous avez déjà, il y en a qui ont déjà vu des élèves de CM1, ça prend du temps, et il y en a d'autres qui sont plus rapides. Donc, voilà, je reviendrai sur la méthode. Nous allons, avec l'accord de ton enseignant, te poser quelques questions sur ce que tu fais à l'école. Tu peux répondre librement et en prenant ton temps. On a négocié avec les enseignants d'avoir le temps qu'il fallait. Je les remercie encore. Ce sont des questions très complexes. D'accord ? Quelle matière travailles-tu à l'école ? D'après toi, à quoi servent les sciences, les maths ? Vous voyez qu'il y a une déclinaison systématique. Comment sais-tu que tu es en cours de maths? Comment tu sais que tu es en cours d'histoire géo, de français, etc.? Qu'est-ce qu'on apprend d'important en histoire géo, en sciences, en français, en mathématiques? Nous avons fait passer 3 questionnaires à 3 époques différentes, parce qu'il fallait quand même pas les épuiser. d'accord, vous imaginez qu'il y a quand même des contraintes. Donc, je vous ai mis le questionnaire 1 en entier, avec pas la longueur hein, qu'il faut pour l'élève, mais rassurez-vous, ils ont de quoi écrire, bien sûr. Il y a le questionnaire 2, je vous ai mis simplement avec les sciences ou avec les maths, mais c'est décliné dans toutes les disciplines scolaires, enfin, que nous avons étudiées. Et donc, vous voyez que ce sont effectivement des questions pratiquement ouvertes, ce qui explique aussi la longueur de notre recherche. Nous nous inscrivons dans le temps. Il nous a fallu effectivement 4 ans pour mener à bien cette analyse. Nous avons 300 fois 3 questionnaires de cette taille avec des principes méthodologiques dont j'évoque simplement 2 principes méthodologiques quand même. Voilà. Premièrement, il y a le premier principe méthodologique. C'est celui de l'intelligibilité des discours tenus. Ce sont des élèves de CM1, CM2. C'est-à-dire, on pourrait nous dire, on nous a dit très souvent, hein, chaque fois qu'on présente ça, nos autres collègues nous disent, mais vous êtes fous, ce sont des gamins, ils sont jeunes, ils disent n'importe quoi. Eh bien, non. Notre premier principe, c'est de dire, ils ne disent pas n'importe quoi. C'est-à-dire que je considère que c'est rationnel. Même si parfois, je vous en ai mis, ce sont des réponses qui sont parfois difficiles à lire. C'est-à-dire qu'il y a tout un temps de saisie qui est... Alors, je vous le lis parce que quand même, j'ai préparé, je vous en ai pris des exemples. Il y en a un ou deux, on n'a pas réussi. Mais là, c'est, d'après toi, à quoi servent l'histoire et la géographie? Alors, le gamin, il dit d'abord, vous voyez, en histoire. En histoire, ça sert ce qui s'est passé avant le Moyen-Âge. Voilà. Géo, donc j'entends ça comme géographie, hein. Ce qui se passe de grave sur la Terre. Voilà. Je vous le dis parce qu'on a passé longtemps à déchiffrer, c'est pas immédiat du tout. Et c'est un autre, hein. D'après toi, à quoi servent les sciences? C'est une autre petite fille. Les sciences servent à nous apprendre, ça va bien, comment est la vie. D'accord? Ce qui est, bon, ça c'est plus lisible. Mais j'insiste hein, sur ce principe d'intelligibilité et de cohérence. De cohérence des discours, même si on nous a aussi reproché de faire un questionnaire disons par exemple en février, puis un autre en mars, et puis un autre, etc., en avril, elles sont cohérentes. Je vous en donne un seul exemple, malheureux d'ailleurs, c'est Sarah. Le questionnaire 1, donc disons février. D'après toi, à quoi servent les sciences? Alors elle rate, les sciences ne servent à rien, puis elle efface. Pour moi, voyez comme ils reprennent bien, ils sont dans la communication parce qu'on avait marqué d'après toi. Et donc, elle se dit, non, je vais répondre vraiment à la question. Pour moi, les sciences ne servent à rien. Et Sarah, c'est la même, hein, au questionnaire 3, donc c'est 2 mois plus tard. Qu'est-ce qu'on apprend d'important en sciences? Pas grand-chose. D'accord? Comme elle le dit, voilà. Qu'est-ce qu'on apprend d'important en sciences? Pas grand-chose. Et les discours sont effectivement cohérents. Donc, nous avons transcrit tout ceci, je vous laisse passer le, je vous imaginez le boulot que ça a été. Même parfois, elles sont trop cohérentes. Au départ, on a été un petit peu chagrinés, mais on le savait, hein. C'est Victor, par exemple, qui dit, vous savez, il y a une question qui se décline. Y a-t-il des sciences à l'extérieur de la classe, du français? Je vous le remets pas à chaque fois. Et Victor, il a trouvé la bonne méthode. Quand on a des devoirs en sciences, quand on a des devoirs en français, quand on a des devoirs en maths, quand on a des devoirs, etc. Il n'est pas le seul, hein, ça, c'est une réponse emblématique, mais il y a à peu près 10% des élèves qui ont un modèle de réponse et qui déclinent simplement en changeant la discipline. D'accord? Bon, on s'est dit, à un moment donné, on a beaucoup hésité, qu'est-ce qu'on fait de ces réponses qui sont identiques? Est-ce qu'elles sont pour nous le signe que l'élève n'a pas compris, a dit « bon, allez, ça suffit, j'en ai marre voilà. ». Non, d'après notre principe, on s'est dit non, ça veut dire ça a un sens précis, et au fond ça a le sens que l'élève ne distingue pas les différentes disciplines scolaires dans cette question. On s'est dit ça, C'est-à-dire qu'il y a des certaines questions, parce que c'est pas toujours la même chose. Un Victor, par exemple, qu'est-ce que tu as appris d'important en maths, en français, etc. Il va répondre des choses différentes. Mais si à cette question-là, il dit, voilà, j'ai une réponse, c'est quand on fait des devoirs. Et donc, une attitude dans ce cas-là que je qualifierais de scolaire et non de disciplinaire. Quelques-uns des résultats obtenus, c'est ça, quelques résultats. Tout d'abord, que c'est un monde complexe. Et ça, ça va dans notre sens. C'est-à-dire que les élèves, et les enseignants, hein, bien sûr, et les parents d'élèves, sont au fond face à un monde qui est très complexe, qui est spécifique et qui est sans grande continuité. En moyenne, vous vous rappelez peut-être pas, mais à la première question, si on demande qu'est-ce que tu fais comme matière à l'école, et au questionnaire 3, on demande quelles sont les matières par ordre d'importance que tu fais à l'école. Écoutez, en fait, on a eu 102 désignations différentes. D'accord ? C'est-à-dire que vraiment, les élèves citent énormément de choses. En moyenne, ils en citent 9, mais ça va de 3 matières citées à 21. D'accord ? Il y a plusieurs gamins qui citent énormément de matières différentes. Le nombre de matières différentes ne dépend pas du tout du niveau scolaire, il dépend de la classe, de l'établissement. D'accord ? Ces désignations sont pour quelques-unes extrêmement partagées, il ne faut pas quand même exagérer. Mathématiques, ça, tout le monde l'a cité. Vous voyez, mathématiques, français, histoire, sciences, géographie, anglais, sport, ça, tout le monde à peu près a cité ces matières-là. Mais après, il y a les 14 matières assez citées, où déjà ça commence à être un petit peu plus flou. Et puis ensuite, nous avons des matières extrêmement, je dirais, originales, parce qu'elles sont très peu citées, comme par exemple études de la paix ou lecture suivie, qui n'apparaît que très peu de fois. Voilà. Et donc, il y a une liste que je ne peux pas faire rentrer là-dedans. D'accord ? Mais je vous renvoie aux publications parce qu'on les a marquées. La liste de ces différentes désignations pose la question de leur origine. D'où les élèves les tiennent-elles ? Oh, je veux bien maths, français, histoire, sciences, ça va. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui mettent théâtre ? Pourquoi ils mettent art visuel ? Pourquoi il y en a d'autres qui mettent études de la paix ? D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'après tout, études de la paix, s'il n'y en a qu'un, je ne comprends pas pourquoi dans toute la classe, ils ne mettent pas études de la paix. Donc, il y a des désignations, en fait, il y a beaucoup de désignations qui proviennent des affichages, institutionnels dans la classe, qui viennent de l'emploi du temps. C'est pour ça que c'est important d'aller dans la classe elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des emplois, vous voyez, la maîtresse ou le maître affiche un emploi du temps. C'est pas la même chose qu'au collège. Hein, et donc, ils se repèrent par des entrées qui figurent explicitement au tableau, d'accord, ou sur la porte qui est là. Voilà. Et qui ne sont pas les mêmes que celles des classeurs et des cahiers sur lesquels ils écrivent. C'est ça qui est intéressant aussi. Parce qu'il peut y avoir tout à fait, dans l'emploi du temps, quelque chose qui est désigné comme dicté. Et l'élève va nous dire, ouais, on fait, comme matière, on fait dictée. Mais ils n'ont pas de classeur dicté, ils ont un classeur français. Il peut y avoir un classeur expression écrite et qui n'apparaît jamais dans l'emploi du temps. D'accord ? Donc vous avez déjà des tensions, on va dire, entre l'organisation des productions écrites de la classe, l'organisation des exercices, etc., et l'organisation qui est affichée. Sur quoi également ils se fondent ? Sur les affichages, mais au sens, vous savez, des grandes affiches qu'on punaise dans la classe, la frise chronologique, les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. Et donc, vous voyez apparaître, qu'est-ce que tu fais comme matière ? Ah ben, je fais l'appareil respiratoire. Et il faut avoir été dans la classe pour dire, ah ben, je comprends pourquoi il dit appareil respiratoire. C'est parce qu'il y a une affiche avec appareil respiratoire. Donc, il a cherché dans la classe quelle matière il faisait. Électricité, etc., même chose. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il y a des choses, attendez, il faut que je reprenne comme fiche d'entraînement ou étude de la langue, c'est parce qu'ils ont un manuel qui s'appelle comme ça, donc, et qui était posé sur leur bureau. Donc vous avez des désignations qui viennent de sources différentes, et puis il y en a d'autres enfin que l'observation au fond de la classe ne permet pas de comprendre. Donc ça doit venir soit du discours de l'enseignant que nous n'avons pas entendu, soit du discours des parents. Par conséquent, donc ça nous interroge sur la reconstruction. Comment est-ce qu'ils identifient, effectivement, quand ils disent numération, mesure, etc., est-ce qu'ils rattachent bien ça à une grosse configuration disciplinaire qui serait les maths? Alors, j'ai trois grands résultats. Je peux, c'est ça? Oui. Sur le français, les mathématiques et les sciences. Je suis désolée, je ne peux pas présenter ce qu'on a trouvé sur l'histoire-géographie parce que la collègue qui travaillait dessus a laissé tomber en cours de route. Je le regrette beaucoup parce que ça nous aurait vraiment intéressé, parce que c'est une discipline intéressante. Tant pis. Alors le français. Le français, ben, on dirait d'abord une discipline éclatée, mais après je vais tempérer. Je vous ai mis à peu près tout ce qui était cité et que nous avons, nous, rattaché. Hein, c'est les chercheurs qui ont rattaché ça à la discipline française, c'est pas les élèves. Vous voyez, bon, français, il y en a 260 qu'ils citent, parce que c'est vrai que c'est très identifié comme discipline. Mais après, ben, je ne sais plus, je les avais comptés, je crois que c'est une quinzaine de sous-disciplines, de domaines, qu'on peut plus ou moins rattacher à la discipline française, au fil des instructions officielles, des choses comme ça. Bon, c'est vraiment... oui, et puis on rentre par des contenus, hein, les mots, là, les poèmes, la lecture suivie, l'orthographe, etc. D'accord. Cependant, je tempère quand même cette diversité, cet éclatement, parce que ça masque le fait que le français est avant tout, au primaire, hein, constitué du triplé orthographe, grammaire, conjugaison. Voilà. Orthographe, grammaire, conjugaison, ça revient, c'est vraiment le triplé choc gagnant, et au collège, ça continue. C'est ça qui est un peu surprenant, en sixième en tout cas. En troisième, ça commence à changer un tout petit peu. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est très fort autour de cette identification. Là, je fais un pas de côté parce que je prends en compte des résultats de la recherche que nous sommes en train de mener sur le vécu disciplinaire. Quand on demande aux élèves cette fois-ci quelle est leur discipline détestée et leur discipline préférée, ah, il y a un triplé gagnant, hein, orthographe, grammaire, conjugaison. C'est soit préféré, soit détesté. Vraiment, hein, ça marche ensemble. Bon. Donc, cette tension, hein, entre diversité des domaines, des contenus et la centration sur certains d'eux nous semble caractéristique de la conscience disciplinaire de cette discipline, pour le dire comme cela. Nous retrouvons également une tension, je trouve, entre les visées, parce qu'on leur demande à quoi ça sert, hein, le français, qui sont reconnus aux français de façon presque unanime. Les élèves, hein, sont tout à fait capables, hein, de dire pourquoi on enseigne le français. Et puis on leur demande, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour réussir, d'accord, pour être bien en français. Et qui sont les compétences donc qui sont à maîtriser pour réussir dans cette discipline. Je dis qu'il y a une tension. Parce que quand on leur demande quelles sont les visées de l'enseignement du français, majoritairement ils répondent. Bah, on nous enseigne le français pour savoir lire, pour savoir écrire sans faute, et pour savoir parler un bon français. Parfois ils ne disent pas le bon, mais pour savoir bien parler. Lire, écrire, parler, hein, c'est, y a les trois choses. Vraiment, il faut savoir bien lire, écrire sans faute et savoir parler un bon français. Et j'ai parlé de tension, parce que ça, c'est le triplé aussi gagnant. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour bien maîtriser, d'accord? Quelles sont les compétences? Ben, il faut savoir apprendre à bien lire, il faut savoir apprendre à bien écrire, il faut savoir apprendre à parler. Mais qu'est-ce que tu fais en français? Orthographe, grammaire, conjugaison. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne fais pas? Je ne lis pas. Les activités de lecture sont absolument sous-représentées. Les activités d'écriture. Mais je crois qu'il y a trois élèves qui nous citent des activités d'écriture quand on leur demande qu'est-ce que tu as fait d'important en français. Et l'oral. L'oral, je crois qu'il y a un gamin qui dit qu'il fait de l'oral. C'est-à-dire, c'est ça que je signale, si vous voulez. Les élèves et les enseignants disent très bien que le projet de l'enseignement en français, c'est d'apprendre à maîtriser la lecture, l'écriture, quoi qu'on dise hein, sous le terme d'écriture. La lecture, l'écriture et la façon de parler, de bien s'exprimer, etc. Mais on n'en fait pas, on n'identifie pas ça. Par conséquent, et je ne sais pas si j'ai raison, hein, il me semble que quand les élèves disent, par exemple, voilà Amélie, qui dit, en français, qu'est-ce qui est important ? Ben, il ne faut pas oublier de mettre les points, les majuscules, les accords, il faut bien écouter, il faut réviser, il faut corriger ses fautes, il ne faut pas tricher, ça c'est vrai. Ne pas faire d'orthographe, savoir conjuguer les verbes. Mais quand elle fait du français à l'extérieur, c'est quand elle lit des livres, mais elle ne le fait pas à l'école. En français, on apprend comment on conjugue les verbes et comment on écrit les mots. On fait du français pour ne pas faire de fautes d'orthographe. Mais on enseigne le français, c'est une autre, pour savoir écrire des histoires avec de bonnes terminaisons. Il y a toujours l'idée du contrôle, hein. Écrire des histoires, mais attention, hein, faut les bonnes terminaisons. Excusez-moi. Donc, j'ai une conclusion. Il me semble que l'enseignement du français à l'école primaire... à une très forte imprégnation d'une quasi-certitude du point de vue didactique. Les élèves s'approprieraient directement, vroom, les savoirs et les compétences langagiers, travaillés et appris dans des situations qui sont des situations de dictée, d'exercice systématique, de conjugaison, c'est-à-dire qu'on ferait faire ça, et qu'ils apprendraient immédiatement en les transposant dans des situations qui sont d'oral, d'expression écrite, etc., qu'on ne fait pas travailler ou que les élèves n'identifient peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on serait vraiment dans l'idée que apprendre à bien faire, ça permettrait tout de suite de bien faire. Voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire ? Enfin, j'espère que c'est un peu clair. Voilà pour le français, les mathématiques. Alors, les mathématiques, au départ, on s'est dit, toujours en reprenant tout ce que les élèves nous disaient apprendre, elles sont beaucoup plus homogènes, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de choses. Tout le monde identifie pratiquement les mathématiques. Ils sont 290 sur 291. J'ai pas besoin de vous dire que sur les 303 élèves, il y en avait évidemment 10 qui étaient absents le jour du premier questionnaire, 5 qui étaient absents le jour du second, etc. Ça, bien sûr. Donc vous voyez qu'au fond, la géométrie est assez identifiée, pas autant qu'on aurait souhaité, mais enfin tant pis. Puis après ça tombe, hein. Il y a très peu de choses qu'on peut au fond raccrocher à la discipline mathématique. C'est donc une discipline, moi je trouve, assez homogène dans le discours des élèves. Bon, mais attention, hein, je ne sais pas si la géométrie est conçue comme un sous-domaine des mathématiques. Mais quand nous regardons les réponses à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu as appris d'important, quels sont les contenus, etc. Eh bien, comme le français, les maths, la plupart des classes, la plupart des élèves dans une très grande majorité, les maths au primaire, hein, toujours, il y a deux domaines, les opérations, les calculs, les tables de multiplication. On fait des maths pour savoir compter, diviser, multiplier, additionner. En mathématiques, on apprend la division, les nombres décimaux et entiers, la multiplication, l'addition, la soustraction. Les maths, ça sert à savoir compter. Et attention, quand j'ai mis Pauline, ça veut dire qu'elle a répondu ça, hein, c'est sur la différente question du même questionnaire. Bastien, lui, on apprend à calculer, compter et à faire des problèmes. Comment utiliser le compas ? C'est le seul, c'est pour ça que je l'ai marqué, d'accord, qui cite une activité un petit peu haute, une compétence un peu autre, car il y a des additions, de la géométrie et des problèmes, des divisions, de la géométrie et de la connaissance des nombres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment qui tient à dire qu'il y a de la géométrie. C'est pour montrer quand même des réponses possibles, hein. Il n'y a pas que cela. Et par conséquent, nous avons fait un rapprochement entre ces deux disciplines, français et mathématiques, qu'on va dire quand même discipline un peu pilier, si vous le voulez bien, à l'école primaire. Hein, c'est quand même, il passe du temps à faire des français et des maths. C'est au fond que les visées des maths sont un peu plus souvent des visées concernant la vie à l'extérieur de l'école. Comme le disent ces élèves, les maths c'est bien pour savoir compter, se savoir calculer, savoir compter, pour ne pas se faire rouler. Ça revient. Ah bah oui, à la caisse, il faut savoir compter, il faut savoir calculer de tête. pour ne pas se faire rouler, ça revient beaucoup, et pour avoir un bon métier plus tard. Ça, ça revient également énormément. En français, c'est pour savoir bien parler. Mais les compétences pour réussir en maths concernent presque toutes la maîtrise du calcul. Donc, il faut savoir bien compter. Vous voyez le parallèle, il faut savoir bien compter et il faut savoir compter vite. Voilà. Et il faut connaître, non pas les conjugaisons, mais les tables de multiplication. Donc, vous avez quelque part un discours très commun, très majoritaire, qui permet de comparer français et maths. Français, c'est savoir bien lire, bien écrire, bien parler, connaître, d'accord, c'est pas les tables de conjugaison, c'est quoi, c'est les verbes, enfin, comment ça s'appelle, les règles de conjugaison, mais sous l'aspect premier, deuxième groupe, troisième groupe, je sais plus comment ça oh, j'ai oublié, les conjugaisons, quoi. Et chez nous, enfin, en maths, c'est savoir calculer et compter et connaître les tables de multiplication. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Car il y a deux formes de contenu sous forme de tableau. Multiplication, premier, second groupe, troisième groupe. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui sont donc visibles, délimités, formatés. C'est par hasard hein, s'ils arrivent sous forme de tableau. Qui sont éventuellement contrôlables par les parents. En tant que parent, moi, je peux faire réciter les tables de multiplication. Je peux faire réciter la conjugaison du verbe « suivre ». D'accord ? Ce sont aussi des contenus qui sont à apprendre par cœur. Et donc, ce sont des contenus qui sont aussi aisément évaluables. Je vous fais une interrogation écrite sur les tables de multiplication, là, comme ça, tout de suite. Et qui traverse les époques en France. Je dis bien dans l'enseignement français, hein. Là, c'est pas la même chose chez nos voisins belges, hein, par exemple. Et donc, voilà, moi je m'interroge toujours pourquoi est-ce que ceci traverse les époques, est tellement facile à s'accrocher, est un noyau dur de la conscience disciplinaire. Voilà. Je termine par les sciences. Les sciences qui est un entre-deux, bien sûr. Ah, les sciences. Les sciences, elles sont bien identifiées. Biologie, technologie, vous voyez, bon, études du milieu, tout ce que vous voulez. Au passage, ça nous signale ce que je voulais dire, c'est l'absence parfois de continuité hein, dans les écoles. Mais les sciences, c'est aussi une discipline scolaire éclatée. Alors cette fois-ci, pas tellement peut-être par ça, mais par les contenus. Alors, je vous ai mis des. Ah, c'est un petit peu plus petit, je vais vous le lire, hein. Alors, d'après moi, ça c'est d'après moi, et vous avez plein d'élèves différents. D'après moi, les sciences, ça sert à apprendre comment on fait des mélanges. Ça c'est banal. Les sciences servent à apprendre ce qu'il y a dans la vie, comment on respire, c'est précis là. Ça sert à comprendre la science comme l'électricité, la vie des animaux, Stéphane. Les sciences servent à apprendre les planètes qui existent, Adeline. Car on apprend le corps, la mécanique et beaucoup de phénomènes sur le monde. Ça, je ne sais plus qui c'est Alix. Attention, j'ai choisi des élèves qui venaient de la même classe. D'accord ? Et vous voyez, leur contenu, c'est quand même... c'est très différent. Là encore, en dessous, c'est une autre question. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour réussir en sciences ? Et j'ai pris des élèves de la même classe. Alors vous avez, qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Il faut savoir faire des recherches, apprendre des leçons et regarder le tableau et écouter la maîtresse et regarder la nature qui est autour de nous. Savoir aussi comment notre corps humain est fait d'os et de chair et de muscles et savoir quand même savoir comment est notre corps humain. Voilà. Le second, savoir la reproduction humaine, savoir comment grandir et savoir comment le corps fonctionne. Troisième. Savoir le développement durable, comment sauver la planète, économiser l'eau, ne pas polluer la planète. Le corps humain, on doit savoir ce qu'il y a dans ton corps. Il y a déjà un petit peu plus hein, de connaître la reproduction humaine, connaître comment marche un levier ou une poulie. Il faut aimer les trucs chimiques. Il faut se motiver, il faut apprendre, réussir tous les jours pour réussir, réviser tous les jours pour réussir. Ça, on reconnaît quelqu'un qui est bien. Il est important de connaître le corps humain, de connaître le développement de l'homme et le fonctionnement du corps humain. Bref, Si, et c'est toujours dans une même classe. Hein. Si les mathématiques et le français ont des visées, des contenus relativement partagés, hein, assez consensuels, sur laquelle la plupart des élèves s'entendent, visées et contenus, hein, pas forcément ce qu'il faut maîtriser. Je trouve que les sciences, au contraire, présentent une palette de contenus différents, d'objectifs plus ou moins spécialisés. C'est-à-dire, il me semble, mais j'en sais rien, que la continuité des enseignements en sciences est peut-être moins bien perçue, je n'en sais rien, que celle des mathématiques ou du français, c'est-à-dire ça peut avoir comme conséquence. Est-ce que les sciences, ça fonctionnerait comme un intérêt sans cesse renouvelé? Parce qu'au fond, aborder de nouvelles choses, aborder de la chimie, aborder le levier, la poulie, aborder la reproduction, le corps humain, est-ce que ce ne serait pas autant de découvertes intéressantes qui changeraient, alors qu'au fond, en français et en maths, ce serait un peu toujours la même chose? Mais ça, ce sont des interrogations, et je ne le sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Ou bien est-ce qu'au contraire, les sciences, c'est un amas de savoirs déconnectés, on apprend ça, puis ça, puis ça, puis ça, et je ne vois pas du tout de démarche identique. D'accord ? On apprend les volcans, on apprend la reproduction humaine. Est-ce qu'il y a une homogénéité ? Est-ce qu'il y a une continuité ? J'en sais rien. Je signale un autre point très particulier sur les sciences, parce que c'est Cora m'a demandé de le souligner, c'est la seule discipline où dans la conscience disciplinaire, c'est-à-dire le rapport vraiment à la discipline scolaire, des élèves manifestent du dégoût. C'est là où on a fait la chauve-souris, c'est là où on a fait la souris. Et ça, on ne l'a pas dans les autres. C'est la seule matière où le ressenti peut être fondé sur des choses comme celle-là. Ça vous évoquera peut-être des souvenirs. Ouais, c'est dégoûtant les sciences. Voilà, au total, voilà, c'est ça. Au total, Au total, donc, classe et conscience disciplinaire, nous avons vu à quel point les découpages tels qu'on a pu les reconstruire sont simultanément homogènes et diversifiés. Voilà. Et ça nous intéresse, effectivement, après, pour voir comment ça s'est transmis, comment ça s'est construit au fil de la scolarité. Nous sommes partis là, on a bien étudié CM1, CM2, et nous sommes partis ensuite vers le vécu disciplinaire. Alors, nous avons cette fois-ci, j'en dis un tout petit mot, c'est tout, parce que je voulais montrer ça, vers le vécu disciplinaire, nous sommes cette fois-ci partis donc de la fin du primaire au lycée professionnel, en passant par les SECPA, le collège traditionnel, les options décrocheurs, le lycée général, le lycée professionnel. Et cette fois-ci, pour interroger un petit peu le continuum, la façon dont les élèves petit à petit amassent des expériences, nous avons demandé une liste des matières, encore une fois, ça j'ai pas remis la question, mais nous leur avons demandé quelle était leur matière préférée, la matière qu'ils aimaient le moins. Bon, je transcris ici, c'est la matière détestée, hein, mais on a pris des précautions oratoires. Quel était le meilleur souvenir et dans une matière? Quel était le pire souvenir qu'ils avaient et dans une matière? La matière qui leur donnait envie de venir le matin à l'école? La matière qui ne donnait pas envie de venir à l'école? Et à chaque fois, on ajoutait pourquoi? D'accord? Donc là, je n'ai pas mis systématiquement en dessous de chaque question, c'est pourquoi? Et nous sommes en train d'analyser, ces questionnaires. Parallèlement, nous avons mené des entretiens extrêmement très intéressants avec les collégiens de l'option décrocheur de Los Angeles. Cette fois-ci, ce sont des entretiens très longs. Alors, ça s'appelle pas option décrocheur. Ah oui, non, c'est moi qui l'appelle comme ça. Ça s'appelle option DS3. Voilà. Et c'est une option extraordinaire parce que ils ont 3 heures de plus par semaine. Non, c'est pas option décrocheur. C'est vraiment au contraire des élèves qui ont un projet, qui font une petite voiture, qui doit aller très vite, ils présentent à un concours et ils ont gagné le premier prix. C'est pour ça que c'est. Non, j'appelle ça option décrocheur parce qu'on l'appelle comme ça entre nous. Hein. C'est pas du tout ça. Voilà. Donc, La prochaine fois, je vous parlerai de ça, pour savoir effectivement quelle est la matière préférée, les ruptures. Je vous dis quand même quelque chose. C'est qu'au primaire, il y a beaucoup d'élèves qui adorent les maths, mais qui adorent, qui disent qu'ils en font à l'extérieur, exprès. Ils se posent des divisions tout seuls, le mercredi après-midi, parce qu'ils s'ennuient. Et il y a une rupture, un basculement au collège, où ça devient de la matière qu'ils aiment bien, la matière... Oh, l'horreur. Une fille de SECPA nous disait... Déjà dans le ventre de ma mère, je détestais les maths. Voilà, je termine là-dessus. Donc pour interroger ça, voilà, ce rapport à la discipline scolaire. Merci de votre attention.